Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence. Aujourd'hui avec deux invités, Monseigneur Claude Raux, qui a été évêque dans le diocèse de La Gouate, dans le Sahara, qui a participé le 15 mai dernier à la canonisation avec neuf personnes, la canonisation de Charles de Foucault. Commençons avec vous, Père Jean-Marc Bou, avec cette fête de la Pentecôte. Quelques explications avec vous sur ce que signifie cette fête célébrée par les chrétiens.
Oui, alors Pentecôte, ça vient d'un mot justement qui veut dire 50. C'est pas l'entrecôte, hein. Ça n'a rien à voir avec l'entrecôte. C'est comme le pentagone à 5 côtés, donc c'est 50 jours, qui veut signaler que 50 jours après la sortie d'Égypte, qui est la fête de Pâques pour les Juifs ont relié cette fête de 50 jours après avec le don de la loi sur le mont Sinaï, où Dieu a parlé à Moïse. Vous savez, dans les 10 commandements, là on voit dans le film, et il inscrit sur la pierre les 10 commandements pendant qu'il y a du feu, du tonnerre, des éclairs, que Moïse est au sommet de la montagne et que tout le peuple tremble en bas.
Alors quelques-uns des commandements qu'il a reçus.
Eh bien, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu ne tueras pas. Voilà, tu ne voleras pas. Tu respecteras le jour du Seigneur. Bon, voilà, c'est parmi les grands commandements. Il y en a qui concernent Dieu, l'autre, les autres, le prochain.
D'ailleurs, certains ont inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Tout à fait. C'est véritablement une charte fondamentale. On peut dire que les 10 commandements sont universels. Mais avec les 10 commandements, il y a plein d'autres préceptes qui ont été donnés à Moïse que les Juifs appliquent. Par exemple, manger kasher, l'aliment interdit et des aliments permis. Donc, c'est un code de nourriture. Ou bien le code du culte, hein, du temple. Tout ça, ça a été donné à Moïse. Et lorsque les Juifs célèbrent la Pentecôte, ils se rappellent que le plus grand don qu'ils aient reçu de Dieu, c'est un code de vie concrète pour tous les jours. Dans le travail, dans la famille, dans les affaires, dans la politique, dans tout ça, c'est le code législatif juif.
Mais lorsque nous parlons de la fête de la Pentecôte dans le christianisme, il est aussi fait mention de l'Esprit Saint. Là, je crois que nous avons un peu besoin de vos lumières, Père Jean-Marc Bou.
C'est quelque chose de mystérieux par définition. Donc le mot esprit reste apparemment abstrait. Dans la Bible, il est symbolisé par le vent et le souffle de la respiration. C'est comme une énergie qui décoiffe quand on parle du vent, mais une énergie qui est familière quand on parle de la respiration, donc qui est très intime. C'est une manière de parler de Dieu, en fait, dans toute la richesse d'une approche mystérieuse où on peut faire une expérience. C'est pas simplement de définir ou de décrire une histoire, c'est de ressentir quelque chose et même une véritable émotion qui permet de changer quelque chose dans sa vie.
Est-ce qu'on peut dire que l'esprit pour les croyants est aussi vital que l'oxygène dont notre organisme a besoin pour vivre ?
Oui, je dirais même que c'est pas que pour les croyants. Il y en a qui respirent l'Esprit Saint sans le savoir. Donc ils n'utiliseront pas ce langage, mais ils pourront en parler de quelque chose qui leur est arrivé, qui a changé leur vie.
Pour reprendre cet exemple de l'oxygène, nous ne savons pas toujours la qualité de l'air que nous respirons. Et c'est pareil par rapport à cet esprit que l'on pourrait qualifier de mystique ou de saint.
Oui, alors justement, c'est un esprit extrêmement pur. C'est-à-dire, il n'y a aucune contamination de pollution. C'est l'esprit qui, par définition et par nature, est sans aucune pollution, et qui dépollue tout, au niveau intérieur, moral, spirituel. C'est l'esprit qui nous purifie, qui nous lave. Et l'eau fait partie aussi des symboles très importants de l'esprit. Et le feu qui brûle les scories, les défauts, les fautes, tout ce qu'on trimballe comme poids. L'esprit est capable de brûler cela et de faire jaillir à l'intérieur de nous-mêmes comme une sorte de vive flamme d'amour.
Alors poursuivons avec vous pour mieux comprendre comment ce mot « esprit » est présent dans le premier, dans le second testament. Nous le trouvons dès la Genèse, cet esprit qui planait sur les eaux. Donc l'esprit existe de toute éternité, c'est faux de dire cela ?
Non, c'est tout à fait ça, puisque l'esprit c'est Dieu en fait. Hein. C'est une manière de parler de Dieu qui approche Dieu par l'angle le plus mystérieux et le plus insaisissable et aussi le plus mouvant. Le plus dynamique, si on peut dire. Alors que vous avez l'image du Père ou l'image du Fils, bon, ce sont des images humaines. Mais Dieu est totalement au-delà de tout ça, et il y a quelque chose de tout à fait mystérieux. Et c'est le langage de l'esprit qui permet de dire qu'on accède à un niveau spirituel, la spiritualité. C'est-à-dire, ça dépasse le corps, ça dépasse le psychisme, le psychologique, et on arrive dans le spi. Donc le spi, c'est le spirituel. Et quand on fait une expérience spirituelle, on peut dire, quelque part, Dieu a touché mon cœur.
Nous parlions ensemble de l'oxygène aussi tout à l'heure pour que nos auditeurs ce matin puissent bien comprendre de quoi il s'agit, puisque cette émission est diffusée ce jour de la fête de la Pentecôte. Nous allons en parler tout à l'heure avec vous. L'enfant qui pousse un cri parce que c'est l'oxygène qui rentre pour la première fois dans ses poumons. Il n'est plus alimenté en oxygène par sa maman et le cordon ombilical. Et le soir d'une vie, les personnes rendent, comme on dit, elles rendent leur dernier souffle.
Pour que justement, que ce soit le premier ou le dernier, ce soit vraiment la vie. L'Esprit Saint, il est Seigneur et il donne la vie, ce qui nous permet de sortir d'une logique de mort pour aller vers un plus, une plénitude de vie.
Une vie aussi qui est donnée à chacun des mots qui sort de notre bouche avec l'air que nous avons respiré.
Et tout à fait, et on voit bien qu'il ne suffit pas de dire des mots, on est très sensible au ton qu'il y a dans les mots, à l'ambiance. Et l'Esprit Saint, c'est quelque part l'ambiance. Et l'ambiance, le fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, douceur, bienveillance, confiance, maîtrise de soi. Voilà, c'est toute une qualité d'être.
Une belle litanie qui ne sème pas du tout la zizanie. L'Esprit Saint n'est pas belliqueux.
Et non, c'est le contraire de l'esprit malsain, par définition. Hein, on pourrait dire Esprit Saint, S-A-I-N-T, mais aussi Esprit Saint, S-A-I-N, c'est-à-dire un air pur et saint qui chasse les mauvaises odeurs. Hein, il y a aussi le symbole du parfum. Quand on fait un baptême, on fait une onction d'huile parfumée, qu'on appelle le Saint-Crème, pour dire quelque chose d'une émanation d'ambiance qui vient de cet esprit de sainteté. Et vous savez bien que lorsqu'on dit, quand on voit quelqu'un qui est, par exemple, très orgueilleux, on dit facilement il est puant. Hein, c'est comme s'il dégageait une sorte de mauvaise odeur qui fait fuir. Alors que celui qui est habité par cet esprit, ce bon esprit, il dégage une sorte de bonne ambiance qui attire, qui fait envie et qu'on a envie de respirer.
Alors grâce à vous, nous en savons un peu plus sur cette fête célébrée par les chrétiens aujourd'hui, fête de la Pentecôte. Nous avons parlé de l'Esprit Saint, un Esprit Saint qui permet aussi l'usage de la prière. Quelques mots sur cette notion.
Je pense que la prière, c'est essentiel, et pas simplement une prière un peu rabâchée, un peu routine, un peu folklore, voyez, hein. Prière ou simplement mettre un petit cierge et puis dire une petite prière et s'en aller. Non, il faut vraiment une aventure spirituelle de découverte, de recherche dans l'intériorité et qui soit pas simplement d'un moment. C'est pour ça que la Pentecôte est le fruit d'une neuvaine de prières d'une communauté extrêmement fervente.
Suite de votre magazine Tendance Confidence, en cette fête de la Pentecôte, nous avons eu quelques éclairages sur le sens de cette fête célébrée par les chrétiens en première partie d'émission avec le Père Jean-Marc Beau. Je reçois maintenant pour la suite de ce magazine Monseigneur Claude Raux, qui a été évêque dans le diocèse de La Gouatz. Il se situe dans le Sahara. Bien que originaire de Normandie, vous êtes passé de la verdure de la Normandie au désert. Comment s'est fait ce cheminement de vie?
Très tôt. Quand j'étais au grand séminaire, j'ai décidé de rentrer chez les missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs. Je suis donc parti, après mon noviciat, faire mes études au Canada. Disons, même si je ne changeais pas totalement de langue, je changeais de culture. Je crois que c'était très bon pour un missionnaire qui part. Et puis c'est au cours de cette formation en théologie au Canada, à Eastview, qu'un Père Blanc nous a parlé de sa passion pour les hommes et les femmes de l'islam, en particulier d'Afrique du Nord, et là j'ai décidé de demander l'Afrique du Nord, et je m'y suis retrouvé au début des années 70, sur le port d'Alger, avec ma deux chevaux, et j'étais comme premier renvoi dans un centre de formation professionnelle à Alger.
Avec vous, nous allons parler en cette fête de la Pentecôte d'un personnage qui vous a beaucoup marqué, qui, comme vous, a été sensible à la spiritualité du désert. Il s'agit de Charles de Foucault, et je devrais dire Saint Charles de Foucault, puisque canonisé, place Saint-Pierre par le pape François le 15 mai dernier. Que faut-il faire pour être un saint?
Oh, j'aime à dire que probablement Charles de Foucault s'est plus ou moins retourné dans sa tombe quand il a appris qu'il allait être saint, parce que il se considérait toujours comme pécheur, et s'il faisait si peu de conversions autour de lui, c'est parce qu'il était pécheur. C'était un homme très humble. C'était un homme qui a donné quand même naissance à cette belle famille spirituelle à travers une vie qui était finalement toute simple, donnée aux autres, à l'accueil des autres, au grand respect des autres. Et ce grand rêve de fraternité universelle qu'il avait fait avant de partir au Sahara, il a vu qu'elle est réalisée maintenant à travers sa famille spirituelle.
Et quel est le parcours de la vie de cet homme qui est Charles de Foucauld ?
Ce qui peut marquer, c'est que c'est un homme qui est passé par l'épreuve, si on peut dire, de la non-croyance. Et avec cette épreuve de la non-croyance, il y avait ce grand vide. C'est un homme qui a connu des grands vides, qui a essayé de les combler comme il a pu. Et puis qui finalement s'est laissé trouver par Jésus et qui s'est laissé faire après. Un homme qui a été toujours un chercheur. Il ne s'est jamais assis sur des certitudes confortables dans la foi. Mais il a toujours cherché pendant 15 ans comment il allait donner sa vie à Jésus. Et puis une fois qu'il l'avait trouvé, bien continuer à être au sein du désert, un marcheur absolument infatigable sur les pas de Jésus qu'il cherchait toujours à rejoindre pour pouvoir avoir la dernière place. Et chaque fois qu'il pensait avoir trouvé cette dernière place, il s'apercevait qu'elle était déjà prise par Jésus lui-même. Ça a été un chercheur, un homme qui ne s'est jamais satisfait de certitudes tranquilles, mais qui s'est toujours laissé interroger et par les autres et par sa propre conscience.
Monseigneur Claudreau, vous êtes aussi un marcheur, hein. Vous avez parcouru en Bretagne pas mal de sentiers de randonnée, mais aussi dans le désert, puisque vous avez été évêque de Lagouatte, oui. Le plus grand diocèse du Sahara.
Oui, c'était un des plus grands diocèses du monde, qui est aussi grand que quatre fois la France, avec des petites communautés chrétiennes, une douzaine réparties sur tous ces points du grand désert. Et ma vie, comme j'ai été vicaire général en 87, ensuite évêque en 2004, j'ai beaucoup, beaucoup parcouru le désert. Et je ne me suis jamais, jamais, jamais ennuyé au désert. Il y avait une espèce de familiarité qui s'est faite entre le désert et moi-même, parce que peut-être je retrouvais à travers le désert ma propre intériorité.
Vous êtes un peu comme Charles de Foucauld, cette passion du désert, cette passion aussi de la rencontre de l'autre, cette passion aussi de la solitude. Mais la montagne intérieure, Claudreau, reste, semble-t-il, la plus difficile à gravir.
Ah oui, et puis je crois qu'elle est, toujours à gravir. Je ne me sens pas encore arrivé au sommet, loin de là. Il faut prendre cette route. La devise de Charles de Foucauld était « jamais arrière ». Alors on peut tomber, on peut dégringoler, on peut avoir des étapes, disons, de stabilité, mais je crois qu'il faut toujours prendre la route, toujours.
Et cette montagne intérieure que nous pourrions nommer la foi, vous qui aimez et appréciez beaucoup Charles de Foucauld pour avoir lu ses écrits, très attentif au prochain, et puis aussi la douceur en manifestant de l'amitié dans les petites choses, il appelle cela l'apostolat de la bonté.
Ah oui, très bien dit. Je crois que c'est très urgent pour notre temps. Actuellement, on est en train d'essayer de peaufiner la façon avant d'annoncer l'évangile, de proclamer l'évangile. Charles de Foucauld disait que s'il fallait proclamer l'évangile sur les toits, ça ne pouvait pas être par la parole, mais par le rayonnement de sa propre existence. Et je crois que notre monde aujourd'hui a besoin plus de témoins vivants que de proclamateurs, que d'annonceurs, tout à fait décollés de la vie. Alors que notre monde a vraiment, vraiment besoin plus d'images évangéliques que de messages dans un monde qui est saturé de paroles.
En cette fête de la Pentecôte, deux visages de saints. Saint Charles de Foucauld, nous en avons parlé un peu pendant cette émission avec vous, Monseigneur Claudreau. Et puis, une régionale de l'étape, si je puis me permettre, avec Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un beau binôme, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Charles de Foucauld. Mais quelle actualité pour notre temps ?
Alors Charles de Foucauld, c'est clair, lui, c'était un marcheur. Thérèse de Lisieux était bien circonscrite dans quelques dizaines de mètres carrés d'un monastère, mais ce sont deux figures parlantes pour notre monde aujourd'hui parce qu'elles ne cherchent pas du tout à briller, mais elles sont comme des étoiles dans des cieux où souvent toute lumière a disparu.
Ils ont fréquenté l'école de la fragilité en même temps que l'école de la dignité, de la prière.
Oui, je crois que la fragilité est une très bonne école parce que nous sommes aussi dans un monde fragile et nous avons à vivre cette fragilité, à ne pas nous désintéresser de ce monde, mais à rejoindre, disons, notre monde dans la fragilité qu'il connaît. Notre fragilité, elle est toute interne, ne pas nous savoir déjà arriver, mais continuer avec ces hommes et femmes au milieu desquels nous vivons, ce dur métier de vivre.
Et que retenez-vous en conclusion à cette émission accordée à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence de cette célébration donc qui s'est déroulée place Saint-Pierre à Rome le 15 mai dernier où 10 personnes ont été canonisées dont Charles de Foucauld?
Eh bien c'est la fécondité de vie toute simple qui brille continuellement maintenant dans notre monde à travers une postérité qu'ils ont, à laquelle ils ont donné naissance sans qu'ils y soient peut-être pour grand-chose.
Et que direz-vous à Dieu, Mgr Claude Roux, au soir de votre vie terrestre ou au matin d'une vie céleste?
Je changerai un peu la prière de Charles de Foucauld. Mon Dieu, puisque vous existez, faites que je vous connaisse.
Merci beaucoup, Mgr Claude Roux, pour votre participation à cette émission diffusée sur Tendance Ouest le jour de la Pentecôte.
Merci.